affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci pour votre fidélité. Elle aurait voulu être actrice, Barbara Cassin a finalement choisi le métier de philosophe, pourtant elle n'aime pas la sagesse et se défie de la vérité, une notion trop absolue, trop universelle. Tout au long de sa carrière, elle s'est intéressée au langage, helléniste, elle est devenue philologue pour étudier ses chers sophistes, elle aime triturer les mots et a coordonné un dictionnaire des intraduisibles. C'est pour tous ses travaux qu'elle a été élue à l'Académie française en 2018. Barbara Cassin vient de publier une savoureuse autobiographie philosophique, à la fois légère et profonde, aux éditions Fayard, « Le bonheur, sa dent douce à la mort », un titre qui reprend des vers de Rimbaud. Dans cette promenade intime, de petites phrases tirées du passé donnent l'occasion de haltes méditatives. Elles évoquent des histoires de familles juives, permettent de croiser la route d'Heidegger, de René Char, de Lacan ou de Jacqueline de Romilly. Elle fait entendre les voix de jeunes élèves atteints de maladies psychiques, les aveux du peuple arc-en-ciel d'Afrique du Sud, les dialogues surréalistes dans un jury de cour d'assises, le chant d'amour aussi à Étienne lors de ses dernières semaines. Avec elle, on découvre le sens premier de la philosophie, ce lien avec la vie. Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Alors on distingue souvent la vie d'un auteur et son œuvre. Et vous, dans ce livre, finalement, vous mêlez les deux en tentant de comprendre pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Est-ce que c'était pour vous une nécessité de vous relier à ce terreau de votre vie ?
Je pense que le moment était venu, c'est plutôt ça. Ça n'est pas nouveau. Je me suis toujours imaginé que... Et j'ai toujours pensé, et j'ai toujours senti, et j'ai toujours vécu le rapport entre, on va dire, la philosophie que je faisais ou la philologie que je pouvais faire et les accidents de la vie, qui n'étaient du coup plus des accidents, mais pas non plus des destins. Et j'ai eu envie de prendre ça de front avec cette autobiographie philosophique. Je ne sais pas si ça existe, une autobiographie philosophique. En tout cas, j'avais dans l'idée quelque chose comme le journal de pensée, le Denk Tagebuch de Hannah Arendt, qu'elle n'a pas cessé d'écrire. Et je ne me voyais pas écrire un journal. D'ailleurs, je n'en ai pas écrit un journal au fur et à mesure des jours. Mais en revanche, essayer de comprendre comment les choses s'interpénètrent et s'enracinent les unes dans les autres, ça m'intéressait pour de bon. Et je crois que j'ai pu le faire à ce moment-là. C'est devenu non pas une nécessité, mais plutôt quelque chose de facile, quelque chose de simple à faire. Après deux accidents de vie. Alors, le premier, c'est que je n'avais plus à répondre de quoi que ce soit devant des pairs, P-A-I-R-S. C'est-à-dire que j'ai eu successivement, alors que on ne peut pas dire que j'ai eu tellement de preuves de reconnaissance dans ma vie. Au contraire, j'ai parfois peiné. Par exemple, je n'ai jamais été agrégée, etc.
Bon,
oui, j'en parle. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant de passer 6 fois ou 7 fois l'agrégation de philosophie et d'être à chaque fois refusée. Et pour des vraies raisons. Des raisons, je ne conteste pas du tout. Mais ça vous en apprend long sur vous-même aussi. Et donc, en fait, j'ai eu à la fois successivement ou quasiment en même temps la médaille d'or du CNRS, ce qui se fait pas beaucoup pour la philosophie, pour les sciences humaines, enfin même, je crois, à peu près jamais, ça s'est fait pour la sociologie ou pour l'ethnologie, mais pas vraiment en philosophie, et assez rarement à une femme en plus, et puis être élue à l'Académie française. Donc, d'une certaine manière, j'avais plus besoin d'être conforme à quoi que ce soit. Dieu sait que j'ai eu du mal à l'être toute ma vie, mais au moins de temps en temps j'ai essayé Et là, j'avais plus besoin d'essayer. Bon, ça, c'est un premier, au fond, un premier motif. Et le deuxième motif, c'est que j'ai écrit un livre avec Alain Badiou qui m'a beaucoup appris sur moi-même, homme, femme, philosophie. Et on a essayé de voir ensemble quelle était la différence d'approche, même à propos d'un même auteur, par exemple de Parménide, entre ce qu'il proposait lui et ce que je proposais moi, ce qui l'intéressait lui et ce qui m'intéressait moi. Et on a essayé de faire la part entre bon, Alain Badiou, Barbara Cassin d'une part, et puis homme-femme. Qu'est-ce qui tenait au genre ? Est-ce qu'il y avait du genre en philosophie ? Et comment ça se manifestait lorsqu'on travaillait les cas ? Et au fond, voilà, c'est ces deux motifs qui m'ont fait tout naturellement en arriver à écrire librement, complètement librement. Alors, j'ai déjà écrit des choses, disons, qui n'avaient rien à voir avec la philosophie, ou soi-disant rien à voir avec la philosophie, c'est-à-dire
tout à voir avec la philosophie.
Voilà, du moins la philosophie le prétend. J'ai déjà écrit des poèmes, des recueils de nouvelles, etc. Mais je n'avais jamais activé la réflexion sur le mélange des genres et sur la connexion entre les genres d'écriture. Sauf avec cette provocation genrée, justement, de homme-femme philosophie. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ça maintenant. Et maintenant, je suis bien en peine de savoir ce que je vais écrire d'autre.
Il y a une forme d'aboutissement quelque part dans ce livre ?
D'aboutissement, non, mais d'épuisement, oui.
Alors, vous parlez de la question du genre, et en vous lisant plusieurs fois, on se rend compte que le pouvoir des femmes, d'une certaine façon, vous fascine, notamment quand vous parlez de votre mère. Et c'est un tableau de votre mère que vous avez choisi de mettre en couverture. C'était une artiste. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette femme ?
Oui, mais mon père aussi était peintre. Ils se sont rencontrés à l'atelier de peinture. Et donc, parmi les phrases qui m'ont construite, il y a des phrases que mes parents se sont dites. Par exemple, quand mon père, quand il a rencontré ma mère, lui a dit « Vous avez les plus belles jambes du monde, vous serez ma femme ou ma maîtresse. » Elle a répondu « Votre maîtresse, jamais. » Moyennant quoi, elle est devenue... Bon. Et des choses comme ça, si vous voulez, avec tout le côté Offenbach, et tout le côté 1910, 1920, 1930 de la chose, m'ont à la fois... terriblement amusée, parce que c'était fait pour m'amuser aussi, c'était pour m'amuser qu'on me le disait, pour m'amuser, parce que c'était vrai, ça avait un certain type de vérité. Et donc voilà, ça, je raconte ce que ma mère me racontait quand elle me faisait poser, quand elle voulait voir mes yeux pour me peindre. Ma mère était peintre, mon père était peintre aussi, donc. Alors il peignait de manière très différente, et j'analyse cette différence qui aussi fait partie des choses qui m'ont construite. Et puis, en effet, ma mère était une femme, bon, j'ai retrouvé des photos d'elle. Moi, elle m'a eu très âgée. Hein. Pour l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Elle avait presque 40 ans quand elle a accouché de moi. Et c'était après la guerre et j'étais la preuve qu'ils étaient encore vivants. Donc, c'est comme ça que j'ai été toujours...
Le miracle.
Oui, j'étais toujours heureuse parce que j'étais la preuve de leur vie, de leur survie. Et de leur survie comme bonheur. Donc voilà, du coup, c'était un couple extraordinairement uni, fusionnel et aussi délirant. C'est-à-dire que probablement monogame, comme on pouvait les faire à l'époque, probablement, on faisait toutes sortes de couples à l'époque, mais disons que ça, c'était un type de couple. Et donc très monogame, c'est-à-dire monogame, et aussi très violent. J'ai des souvenirs d'engueulades, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est un mot qui doit être dans le dictionnaire de l'Académie, d'ailleurs, engueulade. Et, bon. Et voilà, et mon père disant à ma mère, poursuivant ma mère jusque dans la salle de bain, dans son bain, pour continuer à s'engueuler, et elle se levant de sa baignoire, moi je devais avoir 4 ans et je me cachais derrière le bidet, et elle s'est levée de son bain et mon père l'a regardée et lui a dit « voilà ce qui est devenu l'amour de ma vie ». Ça c'est une phrase qui m'a habitée, on peut dire, C'est-à-dire que j'ai pas compris comment ma mère n'était pas morte sur place.
C'est terrible.
Oui. Et donc, pour moi, la monogamie, d'une certaine manière, conduit à ça.
Et justement, il y a cette phrase qui revient très souvent, « pas ça pour moi ».
Non, « pas ça, pas moi ».«
Pas ça, pas moi ».
Oui, « pas ça, pas moi », oui, « pas ça, pas moi », voilà. Et donc, on se construit toujours en opposition à ses parents, en même temps qu'en amour à leur égard, ou on se construit en ressemblance et en différence. Mais ça, je dois dire que « pas ça, pas moi », jamais on ne me dira une phrase comme ça.
Et dans le domaine de la philosophie, vous êtes également dit cette phrase « pas ça, pas moi ».
D'abord, je me suis dit « oui ça, oui moi ». En classe de philosophie, quand j'ai été en classe de philosophie, c'était au lycée La Fontaine, j'ai trouvé ça tellement admirable que ce soit un métier de se demander qu'est-ce que la liberté, est-ce que Dieu existe, qu'est-ce que la politique, qui est Socrate. Je trouvais ça tellement incroyable, cette puissance de questionnement élevée à la hauteur d'un métier. Il y a une phrase de Merleau-Ponty qui dit « avoir pour métier sa passion ». Voilà, donc que ça puisse se faire, je me suis dit « ça, moi ». Et malgré les difficultés, parce que par exemple, si vous voulez, j'étais évidemment beaucoup, bien meilleur, on est toujours bien meilleur en grec, en latin, quand on est bon élève. On est bien plus fort en thème quand on est bon élève que fort dans cette espèce d'invention qui est la philosophie. Et en même temps, cette invention pleine de contraintes. Donc moi, j'ai adoré faire de la philosophie, j'ai adoré lire les philosophes, j'ai adoré préparer l'agrégation 6 ou 8 fois dans ma vie, c'est-à-dire lire tout Hegel, tout Nietzsche, tout Leibniz, tout Descartes, c'était merveilleux. Bon, c'est tout Spinoza, mais c'est magnifique. Alors, il y a des choses que j'ai plus ou moins comprises. Mais en tout cas, lire ça et comprendre que des gens avaient passé leur vie à penser, à écrire ainsi, pour moi, ça a été bouleversant tout le temps. Donc, j'adore la philosophie. Je ne sais pas si je suis philosophe. C'est-à-dire que, d'abord, la philosophie aujourd'hui m'ennuie pas mal. Celle des philosophes d'aujourd'hui m'ennuie vraiment pas mal.
Ah oui.
La dernière, si vous voulez, il s'est passé quelque chose entre Deleuze, Derrida, Lyotard, on peut ajouter Badiou, on peut ajouter Balibar. Enfin, je veux dire, il y a eu un moment de philosophie française assez passionnante. Et à ce moment-là, j'étais élève, étudiante. Et oui, ça m'intéressait. Et ça m'intéressait de les lire. Et puis, ça m'a intéressé aussi, vous parliez de Heidegger, ils se sont tous auto-hétéro-définis par rapport à Heidegger, qui était quand même le grand philosophe de l'histoire de la philosophie, constituant l'histoire de la philosophie, apportant des relectures extravagantes de Nietzsche, de Parménide, des présocratiques, enfin bon, des relectures du rapport entre philosophie et poésie. C'est comme ça que René Char et Heidegger se sont rencontrés. C'est dans le rapport entre pensée et langage. Bon. Donc, tout ça était passionnant. Et je dois dire que là, en gros, j'ai fait de la philosophie professionnellement. C'est-à-dire que j'ai été, pas aussi bien au CNL, donc j'ai beaucoup lu, qu'au CNRS, à la section 35, je l'ai présidé, cette section où il s'agissait de philosophie, au CNL aussi, où il s'agissait de philosophie, de psychanalyse, etc. Et j'ai encore été dans des jurys de prix, il y a des choses formidables, des choses adorables, ponctuelles, etc. Mais les grandes voies, je ne les cherche en tout cas pas en France. Et je ne les cherche pas non plus vraiment dans le monde anglo-saxon de la philosophie analytique pure et dure. Donc, je les cherche plutôt tout à fait ailleurs. Et du coup, ça repose aussi la question des langues et la question de l'écriture. Et c'est pour ça que je me suis vraiment passionnée pour le rapport entre les langues et la difficulté de passer de l'une à l'autre, et en même temps l'extraordinaire moment du entre, Entre et avec, voilà, c'est le sous-titre de livre que je viens de rendre, enfin, avec Daniel Vosny, avec qui j'ai travaillé, autour des maisons de la sagesse, traduire, autour de la traduction. Et le sous-titre, c'est Entre et avec. En fin de compte, c'est ça qui m'intéresse maintenant.
Est-ce que vous pouvez raconter ce que sont ces maisons de la sagesse que vous n'évoquez pas dans ce livre, mais j'imagine pour les raconter dans l'autre, et ce désir d'être au contact des autres langues, des gens venus d'ailleurs, de sentir les écarts, les nuances?
Oui, si vous voulez, les maisons de la sagesse, enfin pour moi, c'est un chemin qui est lié à la nécessité de faire quelque chose dans l'horreur. Pour moi, il y a une situation atroce qui est la situation des réfugiés, des morts, la mort méditerranée. Bon, c'est insupportable. Il y a une phrase d'Anna Arendt qui m'a bouleversée et que j'ai trouvée complètement juste et applicable à nous, qui est vraiment, on vit dans une époque où les gens ne se rendent pas compte qu'ils enferment leurs ennemis dans des camps de concentration et leurs amis dans des camps de, je sais pas quoi, les camps d'aujourd'hui, Calais. Bon. Cette phrase-là m'a marquée, si vous voulez, m'a marquée dans son urgence. Il n'est pas possible de ne pas intervenir. On a honte. Bon, donc il n'est pas possible de ne pas intervenir. Et il faut intervenir dans le quotidien et dans le réel. Alors, moi, l'abstraction de ce réel, le premier type d'étude que j'ai faite, c'est le dictionnaire des intraduisibles. C'est-à-dire, vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles, comprendre que c'est pas seulement dans la poésie, c'est pas seulement dans la littérature qu'on parle en mots, c'est aussi en philosophie. En philosophie, on ne parle, je regrette, on parle. On n'emploie pas les entrées de ce dictionnaire, ne sont pas des concepts. Liberté, ça n'est pas seulement un concept, on va dire. Parce que, c'est très simple, et depuis Benveniste, on le sait parfaitement, vous avez deux modèles de la liberté, en tout cas deux au moins. L'un, c'est la liberté qui vient des enfants, via libère, de père en fils. On est libre parce qu'on n'est pas esclave. C'est la liberté verticale. Et puis, vous avez quelque chose comme freedom and Freiheit, qui peut être conjoint à liberté. Hein. Et bien, freedom and Freiheit, c'est la liberté horizontale d'une classe d'âge, bon, qui va au combat ensemble, la liberté des compagnons. Donc, c'est très intéressant de comprendre ça. Mais ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est très intéressant de comprendre que quand vous dites bonjour, vous ouvrez la journée d'une certaine manière, vous n'ouvrez pas comme les Grecs qui disaient kairé, c'est-à-dire réjouis-toi, jouis. Charis, c'est la grâce que Athéna verse sur la tête d'Ulysse quand il sort du bain. Il devient beau, il devient jeune, il devient lui-même. Bon, voilà, donc kairé, réjouis-toi, jouis, ou bien valet, porte-toi bien, ou bien shalom, salam. Où on souhaite la paix. Donc, c'est très, très important de voir que les langues ouvrent des mondes différents. Ça ne veut pas dire que ce soit des mondes incommunicables, au contraire. Il y a bien un monde commun qui est à la croisée de tous ces mondes, ou disons comme ligne de fuite, mais il n'est pas d'abord donné pour moi. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la différence entre les mondes et comment on les fait se conjoindre. Donc ça, si vous voulez, c'est la partie théorique de la chose. Maintenant, la partie pratique, c'est, bon, engageons-nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, dans ces maisons de la sagesse traduire, qui sont une association de 1901, c'est un ensemble de dispositifs. Ce n'est pas des maisons avec des portes et des fenêtres. C'est sur le modèle des Baïta Likma, où il s'agissait de traduire et de faire passer, et de faire conjoindre ensemble et les générations et les langues, et les sciences, les techniques, les arts, bon, ce moment très fécond de Bagdad notamment, où les traducteurs jouaient à plein et transmettaient, et inventaient en transmettant, hein, ou se fabriquaient. Et là, si vous voulez, je l'ai compris d'autant mieux que j'ai fait une exposition sur la traduction au MUCEM, qui m'a beaucoup apporté, au MUCEM de Marseille. Ça s'appelait « Après Babel, traduire ». Et là, on a fait les routes de la traduction. Et on voyait, par exemple, comment la médecine se constituait à travers les Grecs, les Latins, l'Arabe, etc. Bon, pour aller jusqu'à la médecine la plus contemporaine. Donc, on voyait comment l'astronomie se constituait, etc. Donc, et la philosophie, ô combien. Donc, tout cela, mais aussi les œuvres littéraires. Les Mille et une Nuits, c'est une série de traductions, de réinventions, de conflagrations complètement à la fois accidentelles et essentielles. Bon, donc, et des passages de langue à langue. Donc voilà, tout ça m'a beaucoup nourri, m'a beaucoup appris, et j'ai eu envie de le faire passer dans le quotidien, c'est-à-dire de travailler avec les cas qui sont là devant nous, les gens qui arrivent et qui ont des papiers à remplir avec nom, prénom, date de naissance. Mais ça veut dire quoi pour une femme malienne? C'est quoi la différence? Le nom, prénom, date de naissance, mais c'est très compliqué. Mais c'est terriblement compliqué, c'est terriblement connoté, c'est terriblement cultureux, si j'ose dire.
C'est une culture.
C'est notre culture administrative. Mais ça n'a rien à voir. Il est tout à fait normal, en soninké, de pas savoir sa date de naissance comme nous le disons. C'est-à-dire que, d'abord, on ne sait pas forcément quand on est né, parce que la décision ne dépend pas forcément de votre jour de naissance. Elle dépend aussi de la... Quand par exemple, j'ai appris ça assez récemment, quand un homme a plusieurs femmes, elles peuvent être enceintes en même temps, elles peuvent accoucher quasiment en même temps, la première fois, celle qui a accouché d'abord, très bien, elle a accouché d'abord et la date de naissance est marquée. Mais au deuxième tour, si j'ose dire, il se pourrait que ce soit celle qui n'a pas accouché d'abord qu'il faudrait honorer en disant qu'elle a accouché d'abord. Et donc, on change un peu, mais à quelques jours près, à quelques mois près, on change la date de naissance, si jamais il faut la donner. Bon, et c'est pas complètement décidé, si vous voulez. Ça n'est pas le jour de la naissance qui décide. Et pas seulement, en tout cas. Et puis, les calculs sont compliqués, etc. Bon, bref, on ne le sait pas forcément, et on ne peut pas forcément le dire. Ça donne pouvoir sur vous aussi, un pouvoir qui n'est pas forcément facile à admettre. Et puis, enfin, quand on s'est trouvé à Aubervilliers, à travailler avec toute la mairie d'Aubervilliers, dont l'état civil, tout d'un coup, on a vu les gens de l'état civil dire « Oh, ben on comprend pourquoi ils sont tous nés le 31 décembre ou le 1er janvier. » Bon, voilà. Eh bien, si vous voulez, cette chose-là, il faut comprendre les épaisseurs de culture qui sont traversées et que la nôtre prétend, simplement ignore, n'imagine pas. Donc, dans les glossaires de l'administration française que nous sommes en train de faire, avec, j'en suis vraiment heureuse, l'aide financière du ministère de l'Intérieur, j'aurais jamais cru que je pouvais travailler avec le ministère de l'Intérieur. Ben si, bon, voilà. Avec l'aide du ministère de l'Intérieur, on fait ces glossaires de l'administration française et on réfléchit entrer avec, justement, et aussi bien pour ceux qui arrivent que pour ceux qui accueillent. Voilà, hôte est vraiment un terme réciproque. Et pouvoir montrer ça, c'est très important. Bon, donc, l'une des choses que nous faisons avec ces maisons de la sagesse, ce sont ces glossaires de l'administration française. Mais nous avons bien d'autres, nous avons en tout cas deux autres grands projets qui commencent à se concrétiser, dont je peux parler, mais c'est un petit peu complexe. Vous voulez que j'en parle?
Nous allons peut-être en rester là sur les maisons de la sagesse pour revenir à votre livre. Vous parlez beaucoup des mots. Et dans ce livre, j'ai l'impression que ce sont vraiment des phrases qui sont les points de départ. Quel est le pouvoir de révélation d'une phrase?
Elle-même. Elle-même est une sidération. Une phrase qui vous marque est une sidération. C'est la force du poème. Ça veut dire poésie, c'est fabrication. Pour moi, je ne sais pas, car je n'ai pas égard à cela que vous êtes, mais au doux souvenir des beautés que je vis, c'est une phrase qui m'a toujours habité depuis que je l'ai lue, c'est-à-dire quand j'avais, je ne sais pas, 14 ans. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir varier le temps de cette manière-là. Donc, le pouvoir des phrases, c'est elle-même. Elle vous marque. Et alors, d'abord, peut-être, on ne sait pas ce qui vous marque dans une phrase. C'est-à-dire que c'est aussi le son. Là, je l'ai dit comme je l'ai entendu. C'est-à-dire, car je n'ai pas égard à cela que vous êtes. Mais au doux souvenir des beautés que je vis. Bon, c'est sublime, cette phrase de Ronsard. Eh bien, elle m'a marquée par son pouvoir de signifiant, et de bruit aussi, et puis parce qu'elle impliquait, parce qu'elle remettait en cause complètement la ligne directe du temps. Bon, donner un sens plus pur au mot de la tribu, mais enfin, on peut en rester là. Il n'y a pas besoin de savoir ce que ça fait tout.
Et parfois, ça change la vie, ça peut donner une nouvelle orientation.
Ça la constitue. Je ne sais pas si ça la change, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que ma vie se constitue à moi. Elle s'est toujours constituée avec la vibration de phrases. On peut dire ça comme ça. Et certaines phrases font vibrer l'ironie du monde. Je ne sais pas, la majorité, c'est vous. Ça, c'est une phrase qui m'a toujours aussi constituée dans sa profondeur de sauvagerie ridicule et de vérité ridicule, mais de vérité quand même.
Alors justement, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vérité et peut-être d'abord de mensonge, parce que cette notion de mensonge revient plusieurs fois dans votre livre et elle semble vous plaire. Mentir, ce n'est pas tromper. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Il y a beaucoup de raisons à ça. D'abord, ça n'est pas si simple. Je ne crois pas que je dise simplement que mentir, ça n'est pas tromper. Je dis j'ai beaucoup menti, j'ai très peu trompé. Mais je ne dis pas que mentir, ça n'est pas tromper. Je le dis d'autant moins que pseudos, en grec, conjoint le mensonge, l'erreur et la faute logique, l'erreur et la tromperie. Et que c'est un seul et même mot. Et qu'au fond, ce passage d'un sens à l'autre vous permet toutes les échappées, toutes les nuances. C'est plutôt comme ça que je dirais les choses. Hein. Oui. Maintenant, je peux faire l'éloge du mensonge. Je fais l'éloge de beaucoup de choses. L'éloge est fait pour faire... l'éloge est par définition quelque chose de paradoxal. On fait l'éloge d'Hélène, la plus coupable des femmes. On fait, l'éloge de la calvitie. Bon, c'est grec, ça. C'est grec et latin. Bon. Mais ça implique le pouvoir du langage. C'est-à-dire on fabrique quelque chose avec les mots. Hein. On peut rendre aimable et adorable et souhaitable Hélène de Troie, qui a fait... s'affronter la Grèce, etc., tuer un nombre de guerriers, etc., qui est la première à avoir quitté son mari, c'est dit comme ça, c'est la première ou la symbolique à s'être enfuie avec son amant et tout ce que vous voudrez. Bon, bref, moi je ferais volontiers l'éloge du mensonge, et la première raison, je crois dans ce livre, que quand on est juif, on ne peut plus croire, tout simplement, après la guerre, au moment de la guerre, etc., il fallait mentir, bien évidemment. On ne peut plus croire à Kant. On ne peut plus croire
à l'impératif catégorique
de Kant, qui dit que il faut que la maxime de son action puisse devenir une loi universelle, moyennant quoi, si vous mentez, tout est foutu. Ben non, je regrette. Pour moi, il y a des cas. Et c'est le cas qui m'importe plus que la vérité avec un grand V ou l'universel avec un grand U, et qui, pour moi, est toujours l'universel de quelqu'un, en l'occurrence, l'universel de Kant à Königsberg. Bon. Qui est par ailleurs un immense philosophe. C'est pas le point. Mais où c'est le point, justement ? C'est un immense philosophe, et il peut dire des choses qui me paraissent absolument aberrantes. Sur un certain plan. Sur un certain plan... Donc, quand ma mère a menti aux Allemands qui venaient chercher mon père et qui disaient « Vous, madame, on sait que vous allez à l'église, mais votre mari, il est juif », ma mère s'est encadrée dans la porte, comme ça, magnifique, elle était très belle, et elle leur a dit « Moi, épouser un juif, jamais bon, !» Pour moi, c'est un mensonge, mais de guerre, un magnifique mensonge, un mensonge comme il en faut tout le temps. Et... Le père de ma mère mentait pour rire, et c'est très intéressant de mentir pour rire. Par exemple, c'était un médecin hongrois qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui adorait l'opéra. Et donc, il prenait des places très chères à l'opéra. Et sa femme, qui était normale, lui disait « Mais enfin, Victor, c'est pas possible, t'as pas pu prendre des places aussi chères. » Et alors, il lui serrait le bras en lui disant « Mais tais-toi donc, l'ouvreuse se trompe. » Bon, pour moi, c'est magnifique. C'est comme ça qu'il faut mentir. Il faut mentir, vous voyez, et je ne pense pas qu'il la trompait en montant comme ça. Je pense qu'elle savait très bien et que c'est pour ça qu'elle l'aimait.
C'est une forme de délicatesse.
Oui.
Aussi. Et comme vous parliez de Kant, peut-être que vous, la phrase qui vous guide au niveau moral, vous me dites, hein, si je me trompe, c'est une phrase de Mandela qui semble vous avoir beaucoup marqué quand il écrit « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?»
Oui. Oui, ça m'a beaucoup marqué cette phrase parce que c'est une intervention minuscule de Mandela dans un grand musée qui était un héritage des siècles d'apartheid et qui montrait d'abord les Khoisan, c'est-à-dire les peuples dits primitifs, comme des statues de cire, style Madame Tussaud, en train de. D'avoir des enfants à la mamelle, d'essayer d'allumer du feu en tournant une brindille dans un état de crasse et de déliquescence terrifiante. Et cela pendant des salles et des salles, et tout s'en suivait sur ce que c'était que la négritude de l'apartheid. Et Mandela, au lieu de faire démolir ça, comme les statues de Colbert, il a fait simplement mettre un petit écriteau au milieu avec « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?» Et pour moi, c'est la phrase morale par excellence. C'est-à-dire, c'est ce qu'un prof de philo, et n'importe quel prof, et n'importe quel enseignant, doit apprendre aux enfants dont il a la charge. Il doit apprendre ce recul critique qui dit « Mais que pensez-vous de ce que vous voyez ?» S'il y avait une chose à apprendre dans ce qu'on essaye de faire avec la laïcité ou avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'éducation civique, enfin je ne sais plus quel est le mot aujourd'hui qu'on emploie, mais c'est ça, c'est « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?» Réfléchissez à ce que vous voyez et voilà, faites le pas en arrière du jugement critique. Et ça, c'est très arendtien aussi. Mais on pourrait dire aussi, enfin, c'est très philosophique, mais Arendt dit « Serait-ce que le goût est une faculté politique ?» Réponse, oui. Même le goût. Le goût, c'est « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?» C'est magnifique, je trouve, ça.
Il y a aussi cette notion d'écart qui vous est chère, introduire un petit jeu subtil.
Bah, prendre de la distance, oui. Oh, c'est cher à toute la philosophie qui s'écarte disons, de la doxa ou qui s'écarte. Mmh. Bon, c'est juste, pour moi, je ne voudrais pas être grandiloquente, c'est juste prendre l'instant de recul du jugement.
Alors, votre titre évoque le bonheur. Qu'est-ce que pour vous le bonheur, Barbara Cassin ?
Oh, j'en sais rien. C'est pas parce que j'en parle que je sais ce que c'est. Bon, pour moi, cette phrase de Rimbaud est très belle parce qu'elle dit « Le bonheur, sa dent douce à la mort, m'éveillait au chant du coq dans les plus sombres villes. » Moi, j'aime le jour, j'aime le matin. Le matin, pour moi, je suis heureuse de me réveiller et de voir la lumière. Et si j'avais à définir le bonheur, ça serait une définition assez grecque qui dirait que c'est voir la lumière et parler à quelqu'un. Bon, ça, pour moi, c'est une vraie définition du bonheur. Mais vous voyez, c'est pas une définition grandiose. Mais vraiment, voir la lumière et parler à quelqu'un, je crois que ça me rend heureuse. Voilà.
Malgré la cohabitation avec la mort qui traverse nos vies, et vous en parlez ?
Non, pas malgré, mais à cause.
À cause ?
Oui, oui, à cause. Le bonheur, sa dent douce à la mort, c'est à cause. Je pense que les dieux, et en particulier les dieux grecs, ils s'ennuient un peu, ils ne sont pas heureux. Ils font des tas de trucs, mais enfin, ils jalousent les mortels. C'est très beau d'être mortel. Être mortel, ça vous permet d'être heureux. C'est-à-dire que le bonheur est doublé C'est comme une doublure, vraiment, et doublée de mort. Et ça veut aussi dire, j'évoquais la phrase de Ronsard, « Car je n'ai pas égard à cela que vous êtes, mais aux doux souvenirs des beautés que je vis », en disant que cette phrase, au fond, elle bouleverse le temps. Eh bien, je crois que le temps est une entité éminemment bouleversable, bouleversante, mais aussi bouleversable. C'est-à-dire que une minute, on ne sait pas combien de temps ça dure. Et le bonheur, sa dent douce à la mort, parle aussi de ces moments en suspens, qui sont des moments où la mort est présente, mais on ne sait pas combien de temps ça dure. Et par exemple, je pense, pour moi, ce n'est pas très différent de ces moments où on ne sait pas combien de temps ça dure, c'est-à-dire c'est des moments de l'amour, où on ne sait pas combien de temps ça dure non plus. Quand Ulysse est enfin reconnu par Pénélope et qu'enfin ils passent leur première nuit depuis 20 ans ensemble, il est dit qu'on arrête les chevaux de l'aurore. On ne sait pas combien de temps ça dure. C'est juste une nuit, mais on ne sait pas combien de temps ça dure. Et ensuite, Ulysse repart. Jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui, voyant sa rame sur son épaule, lui dise « Étranger, quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule ?» Bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer non plus, hein, avant de trouver quelqu'un qui n'ait jamais vu la mer, qui n'ait jamais eu idée d'une rame. Mais bon, je veux dire, le temps est une variable, éminemment variable. Et c'est ça que nous explique la mortalité aussi.
Eh bien, merci, Vaufinet. Est-ce que vous voudriez laisser juste un mot en cadeau à nos auditeurs pour passer le jour ?
Lumière.
Un grand merci, Barbara Cassin, la lumineuse. Je rappelle le titre de votre livre, Le bonheur, sa dent douce à la mort, autobiographie philosophique, et c'est aux éditions Fayard. À bientôt.
À bientôt.